C'est parti pour le 18-20 du vendredi. 18h15, une semaine en France, avec la navigatrice et écrivaine Isabelle Autissier qui préside la branche française du WWF. À 19h20, au téléphone sonne, êtes-vous plutôt heure d'été ou heure d'hiver? Question posée alors que le traditionnel changement d'heure sera sans doute bientôt abandonné. En Europe, on en parle au 01 45 24 7000, le standard est déjà ouvert. Mais d'abord, le journal de 18h, bonsoir Amélie Perrier.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Emmanuel Macron tape du poing sur la table face aux industriels. À Ford, en Gironde, il promet qu'il va forcer le groupe à revitaliser le site de Blanquefort. En revanche, on tente l'apaisement sur le dossier Air France KLM. Bruno Le Maire a rencontré son homologue néerlandais aujourd'hui après le rachat surprise de capitaux par les Pays-Bas. Des dizaines de milliers d'Algériens manifestent aujourd'hui encore contre un cinquième mandat du président Bouteflika. Un colloque sur la Shoah organisé à l'EHESS, victime de la violence de nationalistes polonais. L'école des hautes études en sciences sociales à Paris n'avait jamais vécu tel affrontement. Un skieur de fond pris en flagrant délit de dopage, l'aiguille plantée dans le bras. Nous vous raconterons les images de la perquisition de la police autrichienne en marge des mondiaux dans le Tyrol. Et le conseil culturel avant le week-end, peut-être même avant les vacances, est un très joli film d'animation, Wardi, le conflit israélo-palestinien dans les yeux d'une petite fille. Un temps à courir au cinéma, de la pluie ce week-end encore, le point complet sur la météo à la fin de ce journal avec Jean-Pierre Hameau.
Et pour commencer, Amélie, l'État mis à l'épreuve sur plusieurs grands dossiers industriels.
Et le ton est devenu plus vindicatif. Ce matin, Emmanuel Macron à Bordeaux a évoqué le cas de l'usine Ford à Blanquefort, non loin de là. Le constructeur américain veut fermer le site et sacrifier les 850 salariés. Réponse du président ce matin, on ne va pas laisser faire.
La loi aujourd'hui nous permet d'obliger l'entreprise à payer la revitalisation. Et donc, méfiez-vous d'une loi qui dirait « moi, collectivité, je reprends le foncier et je délivre en quelque sorte l'entreprise de toute obligation ». Aujourd'hui, de par la loi à nos dispositifs, ce que nous allons forcer, et les services de l'État sont dans leur rôle à cet égard, c'est qu'on va forcer l'entreprise à revitaliser le territoire et donc à investir dans celui-ci pour sa conversion industrielle.
Le président Macron à propos de Ford à Blanquefort, propos recueilli par Simon Le Baron. Et si l'on durcit le ton, c'est parce que les déconvenues s'accumulent. À Bercy, autre dossier sensible, Air France KLM, le raid boursier de l'État néerlandais cette semaine, inamical, a dit le ministre Bruno Le Maire cette semaine. Donc, ce matin, il rencontrait son homologue des Pays-Bas à Paris. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Contrairement à Ford, là, on a plutôt tenté de calmer le jeu, Fabien.
Eh oui, l'heure serait plutôt à l'onspanning, la détente en néerlandais. Le ministre des Finances des Pays-Bas n'a convenu. L'initiative de son gouvernement était peu orthodoxe, ce sont ses mots. Bruno Le Maire a de son côté voulu calmer le jeu. Plus question de parler de raid boursier. Opération réconciliation, donc sur la forme, mais sur le fond. Il reste des sujets qui fâchent. Un groupe de travail chapeauté par les ministères français et néerlandais des finances va devoir s'y atteler. Il va falloir se mettre d'accord sur des règles de gouvernance équitables entre les deux parties. C'est presque une obligation maintenant que les deux gouvernements détiennent chacun 14% du capital d'Air France KLM. Les néerlandais veulent que leurs intérêts nationaux soient préservés, leur aéroport d'Amsterdam Schiphol et leur compagnie nationale KLM. Question de souveraineté pour les Pays-Bas avec, insiste Paris, des règles de bonne conduite à adopter. Le groupe de travail installé aujourd'hui devra rendre ses conclusions d'ici fin juin au plus tard.
Comment dit-on détente ?
Onspanning.
Voilà, on a appris un mot. Merci Fabien Cazot. Alors pas question de renoncer aux alliances européennes. Exemple encore avec les chantiers navals de Saint-Nazaire. Bruno Le Maire vient de répéter son soutien à la fusion avec l'italien Fincantieri. Il a démenti avoir saisi la Commission européenne pour empêcher le rapprochement.
La suite du journal à l'étranger. Des dizaines de milliers de manifestants cet après-midi en Algérie.
Dans le centre de la capitale, Alger, le mouvement de contestation ne faiblit pas, bien au contraire, contre un possible cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Malgré déjà 20 ans au pouvoir et un état de santé fragile, le chef de l'État veut présenter sa candidature au scrutin du 18 avril prochain. Thibaut Cavès, il est difficile pour les journalistes étrangers de se rendre sur place. Le régime ne délivre pas facilement les visas. Alors vous suivez de Paris, sur le web, cette manifestation, comme de nombreux Algériens ici en France.
Qu'est-ce qu'il fait là? Je crois qu'il est en train de... Oh là!
Depuis Paris, où elle est de passage, Zinaïda scrute les Facebook Live qui retransmettent les manifestations malgré un débit apparemment réduit par les autorités.
Poste d'Alger aujourd'hui.
Là, une vidéo montrant l'opposant Rachid Nekas depuis son bureau où il est obligé de rester, qui passe par-dessus la rambarde du balcon pour saluer d'un peu plus près la foule.
C'est une personnalité très 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 controversée, hein, de toutes les manières. Mais les jeunes l'aiment bien.
Zinaïda est avec nous devant l'écran. Sur place, de jeunes Algériens nous envoient des messages enregistrés.
Bon, un ami vient me dire maintenant qu'il
Et la police l'a interpellé 4 fois.
Surprise de Zinaïda.
Je sais qu'arrivé à ce point-là, le dispositif sécuritaire est intransigeant parce qu'ils sont à quoi ? Peut-être 2-3 kilomètres de la présidence. C'est absolument rien du tout.
Pour Zinaïda, la candidature d'Abdelaziz Bouteflika sera déposée dimanche comme prévu.
Là, on est en train, comme on dit en Algérie, et on est en train de le formater en Suisse. Ah, mais formater où fait ?
Ils sont en train de le formater.
Formater
en... comme un ordinateur.
Voilà, on le remet comme ça en... pour prononcer une phrase comme quoi il se présente.
Une journée de manifestation algéroise vécue par procuration. Pas trop frustrant ?
Non, parce que la semaine prochaine, je serai là-bas, donc je sais qu'il y aura épisode 3.
Le peuple ne veut pas ni de Bouteflika, ni de son frère Saïd. Voilà, c'est l'un des slogans que vous entendiez là scander dans plusieurs villes algériennes. Merci Thibaut Cavaillès. D'autres élections vont nous occuper dans les prochaines semaines, les européennes. Du 26 mai, Emmanuel Macron sera sur la Rai Uno, la chaîne italienne, dimanche soir pour évoquer la campagne. Un entretien enregistré hier à l'Elysée. Et mardi, toujours à l'agenda du président, une tribune. Emmanuel Macron fait publier un texte dans les 28 pays de l'Union, y compris au Royaume-Uni, donc, avec ses propositions européennes. La droite, de son côté, se divise à propos de l'un de ses membres actuels. Doit-elle exclure le Hongrois Viktor Orban, le patron du PPE, le Parti Populaire Européen, qui réunit toutes ses droites, l'affirme dans un article à paraître demain dans le Spiegel allemand. Toutes les options sont sur la table à propos du dirigeant nationaliste et xénophobe. En France, cela fait des mois que l'on tergiverse chez les Républicains. Bonsoir Maxence Landrecq.
Bonsoir.
Difficile d'adopter une ligne claire à propos de cette frange de la droite européenne.
Oui, la pression monte et le casse-tête demeure. La droite belge, luxembourgeoise, portugaise, finlandaise et suédoise réclament désormais son exclusion et d'autres partis du PPE devraient suivre. Il en faut 7 pour lancer la procédure. Côté français, toujours pas de consensus. Souvenez-vous, en septembre, le vote pour ou contre une procédure contre la Hongrie. 3 votes contre, 6 abstentions et 9 pour, dont le député européen Alain Lamassoure qui a quitté LR mais reste membre du PPE et pour lui, le temps presse.
Le moment est venu de s'en débarrasser. Nous allons commencer la campagne des élections européennes. Et si le parti Les Républicains et ses porte-paroles considèrent que des racistes et des antisémites ont leur place dans la famille, il faudra qu'ils l'assument pendant la campagne électorale.
Ça promet une bonne ambiance, donc dans 10 jours, quand la délégation française devra adopter une position. Pour l'instant, Laurent Wauquiez reste très prudent. Aucun élément nouveau ne permettrait d'accabler Viktor Orban, explique un de ses proches. N'oublions pas qu'il risque de remporter les européennes. Chez lui, d'un point de vue comptable, son départ ne serait pas négligeable. 12 à 13 députés en moins. Sur l'immigration, nous partageons toujours son point de vue, assure-t-on rue de Vaugirard. Et chez lui, l'extrême droite a quasiment disparu. On est mal placé. Pour donner les leçons, exclure Orban, c'est le jeter dans les bras de Salvini et Le Pen, ajoute un député. Autant de raisons qui expliquent ces attermoiements.
Merci Maxence. L'Europe, c'est donc aussi cela aujourd'hui, un nationalisme de plus en plus puissant. Le HESS vient d'en faire la meilleure expérience à Paris. L'école des hautes études en sciences sociales a été le théâtre d'un colloque surréaliste. Une rencontre internationale sur la Shoah en partenariat avec le CNRS. Bonsoir Rémi Branchetto.
Bonsoir.
Colloque sérieusement perturbé par une trentaine de nationalistes polonais.
Oui, à l'HESS, on n'avait jamais vu ça. Des mails et des coups de fil de menaces avant le colloque et pendant les 2 jours de réunions scientifiques la semaine dernière, les 21 et 22 février. Une trentaine de nationalistes polonais donc qui s'invitent. Le colloque est consacré à la participation de certains Polonais à la Shoah, mais les perturbateurs contestent avec insultes et menaces, détaille Victor Demio, c'est le directeur de cabinet du président de l'EHESS.
Une trentaine de personnes étaient présentes dans le colloque pour le perturber en huant, en tenant aussi dans des questions posées aux organisateurs des propos antisémites. Il a été question d'un pseudo précepte talmudique qui enjoindrait aux juifs de ne pas porter assistance aux chrétiens en danger. Tous ces propos sont des préjugés antisémites traditionnels, notamment en Pologne.
Le procureur de la République de Paris a donc été saisie, l'école envisage de porter plainte et aujourd'hui elle écrit à l'ambassadeur de Pologne en France.
Une clarification nous semble nécessaire de la part des autorités polonaises pour bien signifier que ce qui s'est passé est inacceptable. Et à ce jour, nous n'avons pas eu d'écho d'une telle prise de distance.
L'affaire prend donc une tournure diplomatique face au gouvernement polonais dirigé par les ultra-conservateurs. La ministre de l'Enseignement supérieur a dénoncé une atteinte à la liberté académique.
Rémi Branchetto, merci. Marine Le Pen, elle, devra peut-être répondre d'un tweet outrancier devant un tribunal. Le parquet de Nanterre a requis le renvoi de la patronne du Rassemblement National en correctionnel. Israël pour avoir publié en 2015 des photos de Daesh. Au juge d'instruction maintenant d'ordonner ou non un procès contre elle. Après la déchéance médiatique, la chute professionnelle pour les membres de la Ligue du LOL. Les Inroc ont licencié leur rédacteur en chef web et son adjoint, David Doucet et François-Luc Doyer. Ils sont accusés d'avoir participé à ce groupe privé, la Ligue du LOL, donc, qui harcelait sur Internet surtout des femmes. La direction du magazine invoque l'impact négatif sur l'image du journal et la crédibilité des deux journalistes pour justifier leur licenciement.
18h10 sur France Inter, la suite du journal d'Amélie Perrier, avec un scandale dans le sport, du dopage dans le monde du ski de fond.
Le responsable de la fédération autrichienne annonce aujourd'hui sa démission après les révélations de la police du pays. Elle assure avoir démantelé, avec l'aide de l'Allemagne, un réseau international de dopage en plein mondiaux de ski nordique à Zeffel, dans le Tyrol. Des accusations difficiles à nier, surtout depuis la diffusion d'une vidéo à peine croyable, la perquisition chez un skieur en pleine perfusion. Bonsoir Jean-Pierre Blimaud.
Bonsoir.
Alors vous observez le milieu depuis quelques années et vous n'aviez jamais vu de telles images. Hein.
Oui, la vidéo est courte, saisissante à la fois. En une dizaine de secondes, on voit le skieur de fond autrichien assis, incrédule, devant l'un des policiers. Le regard dans le vide, le bras gauche posé sur un coussin avec une perfusion en cours. Le bras droit qui retombe de l'autre côté, esquissant des gestes qui trahissent un certain stress. Image exceptionnelle d'un flagrant délit pour une affaire de dopage qui a déjà beaucoup de conséquences. Hein. Ce skieur de fond, Max Hawk, n'est que l'un des 5 athlètes inquiétés dans cette affaire qui a secoué le mondial de ski nordique en Autriche. Le second skieur est également autrichien. Il y a aussi 2 Estoniens, 1 Kazakh, qui ont été arrêtés mercredi par les policiers du pays dans le cadre du démantèlement de ce réseau international actif depuis plusieurs années. Cette vidéo, partie émergée de l'iceberg, a été vue par des milliers d'internautes avant d'être supprimée du serveur dans la journée. Elle était encore visible dans l'après-midi sur certains comptes Twitter.
Merci Jean-Pierre. Quand le dopage touche même les disciplines les plus improbables, le numéro 1 mondial de bridge, oui le jeu de cartes, a été contrôlé positif à la testostérone. La fédération internationale suspend pour un an Geir Elgemo. Il est né en Norvège, il joue pour Monaco lors des compétitions internationales. Et avant de se quitter, Claire, notre rendez-vous avec le service culture de France Inter et sa prescription pour le week-end. Cette semaine, un très beau film d'animation sorti donc au cinéma et ça s'appelle Wardi, le conflit israélo-palestinien à hauteur d'enfant puisque c'est l'histoire d'une petite fille palestinienne dans un camp de réfugiés au Liban. Un récit d'un jeune réalisateur norvégien, Mats Grorud, très émouvant et pour cause, Corinne Pellissier, il s'est inspiré de son expérience dans l'humanitaire.
Au village de Sidi, en Palestine, pourquoi on n'y est jamais retourné?
Ça c'est le passé. Ils l'ont effacé.
Sur son passeport, il y a écrit « réfugié ». Mais Wardi, désormais, sait d'où elle vient, grâce à son grand-père, très malade, qui n'a plus les moyens de se soigner. Persuadée qu'il se meurt de chagrin, la jeune fille va se mettre en tête à 11 ans de retrouver l'espoir qu'il a perdu en menant une enquête méticuleuse auprès des membres de sa famille. Son père, sa sœur, sa tante, tous vont lui raconter leurs souvenirs et aujourd'hui leur vie de réfugié dans une tour délabrée du camp de Bourj El Barajne en périphérie de Beyrouth. L'histoire de tout un peuple depuis ce que les Palestiniens appellent la Nakba, la catastrophe, ce jour de mai 48 où ils ont dû quitter leur terre et leur maison.
Ces graines, c'est pratiquement tout ce que nous avons pris en partant de chez nous.
Pour écrire son histoire, Mats Grorud s'est inspiré de son expérience dans l'humanitaire et de ses rencontres dans ce camp bien réel. Un portrait mélancolique et très incarné, avec des éléments d'archives et des marionnettes en 2D, en stop motion, pour donner plus de corps à tous ces souvenirs que tous continuent d'entretenir avec plus ou moins d'espoir, entre le bruit des mitraillettes, des hélicoptères et des sirènes de police.
Si on n'a aucune idée de son passé, ni de l'endroit d'où l'on vient, alors qu'est-ce qu'on est ?
Voilà le coup de cœur de la semaine de Corinne Pellissier, ça s'appelle Wardi et c'est déjà au cinéma.
Eh ben merci beaucoup pour ce conseil, c'était le journal d'Amélie Perrier. Dans un instant, le temps.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur prefonds-retraite.fr.
Bonsoir Jean-Pierre Hameau.
Bonsoir Claire.
Alors comme ça, une perturbation quitte le pays par l'est et une autre arrive par l'ouest.
C'est à peu près normal.
Grand classique. Hein.
Effectivement, il pleut encore vers les frontières de l'est. La neige est même tombée au-dessus de 1100 mètres aujourd'hui vers les Deux-Savoies, mais aussi sur les massifs jurassiens et vosgiens. Avec ce flux océanique, une nouvelle perturbation aborde le Finistère en ce moment. Les pluies associées sont faibles et vont se décaler d'ici demain. demain matin, des Pyrénées aux frontières belges, en passant par le Massif central et l'ouest de la région parisienne, pour gagner en cours d'après-midi le nord-est et l'est du pays. Et puis après le passage de cette perturbation, vous apprécierez le retour d'assez belles éclaircies, et pour ne pas changer, l'ensoleillement sera encore généreux dans le sud et le sud-est.
Et les températures ?
Elles seront douces pour la saison dès le lever du jour. Les maximales sont supérieures aux moyennes de saison et comprises entre 11 et 19 degrés. Prévoyez 11 à Metz et Dijon, 13 à Lyon, 14 à Brest, 15 dans la capitale, 16 à Bordeaux, 17 à Toulouse et Marseille, 18 à Toulon. On ira même jusqu'à 19 degrés à Perpignan.
Merci beaucoup Jean-Pierre Hameau de Météo France.